Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, les températures ont à peine commencé à descendre légèrement en France que déjà Météo France annonce à partir de ce week-end un troisième épisode de forte chaleur. Des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes aujourd'hui à Doha sur l'accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Et la majorité des députés en France a dit oui hier à la création d'un droit à l'aide à mourir pour des patients atteints d'une infection grave et incurable. À suivre la réaction de députés à notre micro à l'issue du vote. Nous l'avons évoqué dans les titres, les températures ont à peine commencé à descendre légèrement en France, que déjà Météo France annonce à partir de ce week-end un troisième épisode de forte chaleur en à peine plus d'un mois, ce qui risque d'éprouver les organismes et les infrastructures déjà mises à mal. Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé et pourraient battre de nouveaux records en 2026 sous l'effet combiné du phénomène El Niño et du réchauffement climatique selon l'Observatoire européen Copernicus. Marine. Dans l'actualité au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu hier dans la partie du sud du Liban occupée par Israël, a affirmé que son armée resterait sur place tant que le Hezbollah pro-iranien menace. Et l'armée israélienne restera indéfiniment au Liban, en Syrie et à Gaza dans ce qu'elle qualifie de zone de sécurité, selon le ministre de la Défense israélien. Et nous l'avons évoqué dans les titres, des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes aujourd'hui au Qatar sur l'accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Et en Iran, les préparatifs des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei entrent dans leur dernière phase. Les autorités attendent des millions de personnes pour rendre hommage à l'ancien guide suprême tué lors de l'offensive israélo-américaine de février dernier. Les cérémonies doivent débuter ce samedi à Téhéran. Les précisions avec vous, Nadia Bencher.
À Téhéran, les prépare à quelques jours des funérailles nationales d'Ali Khamenei. Autour de la Mossala, immense complexe religieux où sera exposée sa dépouille, les ouvriers s'activent. Travaux de rénovation, sécurisation du site, aménagement des accès, tout est mis en œuvre pour accueillir un événement hors norme. Les autorités iraniennes attendent entre 15 et 20 millions de personnes dans la capitale. Trois jours d'hommage sont prévus à partir de samedi, avec fermeture de nombreux quartiers et importantes restrictions de circulation. Des délégations d'une trentaine de pays sont également annoncées. En revanche, aucun responsable européen n'est attendu. Téhéran reproche aux pays européens leur position durant la guerre qui a opposé l'Iran à Israël et aux États-Unis. Ces obsèques interviennent dans un contexte particulier. Elles se tiennent quatre mois après la mort de Ali Khamenei et alors qu'un fragile cessez-le-feu est toujours en vigueur dans la région. Selon les autorités, l'objectif est aussi de démontrer l'unité du pays autour des institutions de la République islamique. L'inhumation est prévue le 9 juillet à Mashhad, ville natale de l'ancien guide suprême, après un dernier hommage dans les villes saintes irakiennes de Najaf et Karbala.
Et dans le reste de l'actualité internationale, 1943 morts, c'est le nouveau bilan du double séisme qui a frappé le 24 juin le Venezuela, où les survivants manquent déjà cruellement de nourriture et d'abri. Ils pourraient être bientôt confrontés à des épidémies, alerte l'ONU. En France, la prochaine élection présidentielle se tiendra le dimanche 18 avril 2027 pour le premier tour et le dimanche 2 mai pour le second. Ces dates seront officialisées aujourd'hui en Conseil des ministres. À Marseille, quatre autres suspects ont été interpellés hier dans l'enquête sur l'assassinat à Marseille de Mehdi Kessassi, dont le frère Amine est une figure de la lutte contre le narcotrafic. Les prisons françaises comptaient plus de 88 000 détenus au 1er juin, un nouveau record dans un contexte de surpopulation carcérale chronique selon les statistiques officielles du ministère de la Justice. En Seine-Saint-Denis maintenant, le bidonville de Stein, l'un des plus grands de France hexagonale a été démantelée à l'aube. Le préfet du département a salué l'organisation collective mise en place avec différents acteurs, dont des associations, qui a permis un traitement organisé, selon lui, de l'évacuation de ce site qui a accueilli environ 1200 personnes au printemps 2025. Nous l'avons évoqué dans les titres, la majorité des députés a dit oui hier à la création d'un droit à l'aide à mourir pour des patients atteints d'une affection grave et incurable, une promesse phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le vote final est prévu le 15 juillet à l'Assemblée nationale. Son adoption suscite peu de doutes. L'ex-ministre Agnès Pannier-Runacher, députée Ensemble pour la République, nous dit pourquoi il s'agit, selon elle, d'un progrès sociétal.
C'est une avancée sociétale majeure et vous entendez que j'ai de l'émotion parce que moi j'ai vu mourir des proches qui aspiraient à pouvoir bénéficier de cette loi, des gens qui ont combattu de manière magnifique contre la maladie mais qui sont arrivés au bout de leur vie, qui souffraient de manière intolérable chaque jour, qui n'avaient pas accès parce que leur souffrance n'était pas calmable, qu'il n'y avait pas d'issue pour eux. Et cette loi, c'est ce progrès qu'ils appelaient de leur vœu, de pouvoir choisir dignement. Et ce n'était pas par renoncement. Ils s'étaient battus, ils étaient au bout de leur vie et ils souffraient. Et on n'avait pas de réponse à leur apporter. Donc voilà ce que fait cette loi. Cette loi, elle permet à des gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas accès à ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, parce qu'il ne faut pas mentir, on sait déjà que... certains patients demandent au médecin de faire un petit effort, d'accélérer cette sortie de leur vie quand ils sont au bout de leur vie. Et aujourd'hui, elle donne un cadre juridique à ça et elle permet à tous les citoyens d'être égaux devant ce droit. C'est ça que fait cette loi.
La députée Ensemble pour la République, Agnès Pannier-Runacher, et le député communiste Yannick Monet s'est lui abstenu et il nous explique pourquoi.
J'ai décidé de m'abstenir parce que j'ai porté un amendement à l'article 4, c'est-à-dire dans les conditions qui permettent d'entrer dans la procédure de demande d'aide à mourir, un amendement qui stipulait la simple chose, qui était de dire quand une personne fait une demande de soins palliatifs, donc uniquement à sa demande, il faut garantir l'effectivité de cet accès avant que la personne puisse demander d'aide à mourir. C'est-à-dire pas d'accès à la procédure s'il n'y a pas, si on ne remplit pas la volonté de la personne d'accéder aux soins palliatifs. C'était une façon de clarifier l'intention du législateur, de dire mais nous, c'est le soin qui prime. Mais il y a des situations où le soin n'y suffit pas. Et donc, je te conseille que de mourir n'était pas un acte de soin. C'est un acte médical, certes, mais ce n'est pas un acte de soin. C'est un autre choix. Donc voilà, donc cet amendement a été rejeté et ça veut dire que ça me pose un vrai problème dans l'intention du législateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à accepter que des gens qui auraient souhaité bénéficier correctement de soins palliatifs, parce qu'il n'y a pas juste le fait d'en disposer, c'est aussi d'avoir des soins qui correspondent à son état psychologique, à son état physique et puis à sa situation de vie, puissent accéder à l'aide à mourir. Donc en fait, ça reviendrait à dire qu'on offrait une alternative aux soins, ce qui moi me paraît impensable.
Yannick Monet, député communiste. Dans un tout autre volet, Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a présenté ce mardi les conclusions de Talents de France, une initiative inédite qui vise à lutter contre les inégalités d'accès à l'emploi dans les quartiers comme en ruralité. Les travaux menés confirment l'ampleur des discriminations qui persistent, selon la ministre, au micro de Radio-Orient.
Aujourd'hui, les discriminations, c'est à la fois un gâchis humain qui est absolument insupportable, c'est-à-dire être refusé sur des critères qui ne sont pas des critères objectifs, être refusé en fonction de son origine, de son code postal, de son nom, de son prénom, de son sexe. Et puis c'est une aberration économique au moment où les entreprises, elles peinent à recruter. Et où la vraie bataille qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle des talents, c'est celle des compétences. Et donc on ne peut plus se satisfaire en fait de cette situation. Et donc l'enjeu, c'est évidemment l'enjeu de l'inclusion économique. C'est pour ça que j'ai lancé Talents de France. 6 mois de travaux dans toutes les régions de notre pays, des quartiers prioritaires, politiques de la ville à la ruralité, de l'Hexagone à l'Outre-mer, 30 propositions et puis une charte d'engagement qui est signée déjà par plus de 650 entreprises.
Vous luttez contre les discriminations. Des enquêtes sont régulièrement menées par différentes associations. Ces discriminations perdurent aujourd'hui. Lorsque vous discutez avec des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui et quelles mesures devraient être davantage mises en lumière selon vous ?
Il y a des discriminations aujourd'hui qui persistent. Il y a un Français sur trois qui dit avoir subi une discrimination au cours de son parcours professionnel. Alors ça peut être son âge, son handicap, sa couleur de peau, son sexe, son code postal. Il y a énormément de critères, évidemment, qui font que finalement, chacun dans sa vie peut à un moment subir une discrimination. Et à chaque fois, encore une fois, ce sont des critères qui sont des critères absolument insupportables et qui sont évidemment illégaux. Les Français ont des droits, et des droits à faire valoir, notamment auprès de la défenseur des droits, et ça, je pense que c'est important aussi que chacun connaisse réellement ses droits. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Ce qu'on doit faire en plus, c'est ce qu'on fait notamment avec les entreprises, parce que moi, je crois à ça. Je crois à l'engagement et à la nécessité de l'engagement. Aujourd'hui, j'ai déjà 650 entreprises qui ont accepté de signer et de signer des engagements chiffrés. 8% de recrutement qui proviennent des territoires ruraux et des quartiers prioritaires politiques de la ville. Jamais on n'a vu cet engagement dans notre pays. 15% de recrutement de stagiaires qui viennent des territoires ruraux et des quartiers prioritaires politiques de la ville. Là encore, jamais on n'avait eu ça. Garantir qu'il y ait toujours un premier entretien qui puisse exister, parce qu'on sait que même si ça n'aboutit pas ensuite sur un emploi, on a besoin de franchir cette étape qui est l'étape de l'entretien professionnel, de l'apprentissage des codes, de la manière avec laquelle on doit se présenter aux autres. Et donc ça, c'est des engagements très concrets, évidemment, des entreprises. Et puis, moi, je vais aussi, maintenant que j'ai les 30 propositions portées par les groupes de travail, on travaille pendant 6 mois, et bien on va les étudier très précisément et surtout, on va aller mettre en œuvre, parce que c'est ça qui est évidemment essentiel.
Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, invitée de grand angle ce soir après le flash de 18h. En football, auteur d'un doublé sensationnel hier soir, Kylian Mbappé a percé le verrou suédois pour envoyer la France en 8e de finale de la Coupe du Monde avec un score final de 3-0 où l'attend le surprenant Paraguay qui a fait tomber l'Allemagne. Et enfin, Victor Willis, le leader du groupe disco des années 1970, un Village People, est mort à l'âge de 74 ans. Il apparaissait sur scène en uniforme de policier et il est l'interprète du célèbre tube YM signé. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.